Est-ce que les grandes planifications d'État pour la numérisation de l'enseignement sont condamnées à échouer et pourquoi ? Nos amis de l'association Silicium de Retro Gaming et Retro Computing nous avaient étonnés avec leur collection d'ordinateurs personnels soviétiques. Aujourd'hui, ils nous ramènent du pur génie français, du Thomson. Nous recevons René Speranza, fondateur et président de l'association Retro Computing Silicium, historien de l'informatique, auteur de guides sur le rétro gaming et accessoirement amateur de carrés très gros. René, tu es avec Valérie. Donc, pour présenter rapidement, en fait, justement, du coup, les activités de Silicium, outre de venir de temps à autre pour exposer leur collection, on les voit aussi dans des événements un petit peu plus grands, si je me trompe, Valérie.
Oui, alors Silicium, c'est aujourd'hui une centaine de membres répartis sur toute la France, avec un noyau dur sur Toulouse, dont le président René Speranza.
C'est moi.
Alors, Silicium, c'est aussi 25 ans d'expérience. C'est la collecte, la restauration, la préservation du patrimoine informatique et des jeux vidéo. Mmh. Donc aujourd'hui, Silicium présente ses collections lors d'événements. Donc on y reviendra peut-être à la fin de l'émission pour notre calendrier.
On en parlera tout à l'heure puisque l'événement Vieux Micro donc aura lieu a eu lieu septembre puisqu'on enregistre en fait début septembre. Voilà, mais il y a des événements assez récurrents et pour cela donc le mieux est d'aller sur le site silicium.org, je suppose.
C'est ça.
Vous avez une mailing list ce genre de choses aussi. Ouais.
Voilà, juste un mot supplémentaire face à l'engouement du public sur ces événements et les nombreuses demandes, nous avons pour projet d'ouvrir sur Toulouse un espace dédié aux jeux vidéo et au patrimoine informatique.
Ah, ça va être cool!
Et nous sommes à la recherche de sponsors.
D'accord. Eh oui.
Eh bien, s'il y a un généreux donateur ou si, je ne sais pas, une force publique veut montrer le génie international et surtout français, ben, c'est l'occasion de faire une belle vitrine, je pense, qui intéressera pas mal.
Ça plaira.
Ça plaira. Ça, on manque d'un vrai musée en France sur le rétro computing. L'association MO5 avait tenté d'avoir un espace. Et voilà quoi. Donc c'est,
ça viendra.
Voilà. Merci.
Merci infiniment, Valérie. René, j'ai survolé l'histoire de Thomson en introduction. En 1982, avant de lancer le TO7, est-ce qu'ils avaient déjà des produits informatiques ?
Bah oui, mais c'était plutôt professionnel. En fait, c'est en 1979 qu'ils ont commencé à réfléchir à ça. Il y a quelqu'un au sein de la boîte qui a proposé un projet d'ordinateur avec une idée originale. C'était un crayon optique. Et puis, les instances se sont dit, c'est intéressant, ça, comme possibilité. C'est vrai que quand on resitue le contexte à l'époque, il y avait très peu d'extension du bras de ce niveau. Le crayon optique était réservé aux machines professionnelles, genre dans tout ce qui était contrôleur pour l'aviation, tout ça, beaucoup. Et donc là, l'idée de proposer un crayon qui, en fait, est relativement simple et peu coûteux, était une bonne idée. Mmh. Voilà, ça commence avec une bonne idée, Thomson.
Comme quoi, mine de rien. Alors pourquoi se sont-ils lancés dans le TO7 crayon optique, c'est une bonne idée, mais ça ne suffit pas quand même pour...
Bon, la machine en elle-même, elle était intéressante de base. On est en 1980, 82 quand elle commence à sortir. Et il se trouve que Thomson, comme tu l'as dit en introduction, commence à vivre des gros remous financiers. Il y a des embargos sur l'Iran, la Libye et les usines d'armement françaises qui sont quand même... notre fleuron industriel, à défaut d'avoir une informatique au top, et ben du coup, le gouvernement décide d'utiliser cette force qui ne tournait pas pour construire des ordinateurs à destination des écoles. Mmh. Voilà le début de la chose. On est en janvier 1984 et le Premier ministre est Laurent Fabius à cette époque-là.
D'accord.
Déjà, il avait 36 ans, je crois. Et donc, Laurent Fabius lance cette production. L'idée, alors évidemment, on est en France, donc de suite, on va équiper toutes les écoles avec de l'informatique, et puis on va en mettre partout, ça va être super. Et puis en fait, Bon, je veux pas être méchant, mais dans l'enseignement, c'est peut-être difficile parfois d'imposer des idées. Et donc, du coup, une bonne idée de base, ben, à mon avis, a rapidement périclité. Et au bout de 2-3 ans, il n'y avait plus de moyens. Et ça a perduré, tant bien que mal, avec la bonne volonté des enseignants qu'on peut peut-être saluer ici. Mais voilà.
Tu nous as amené deux machines emblématiques, donc le TO7,
voilà, le premier,
puisqu'après il y a eu le TO770,
voilà.
Et le MO5. Alors, on rajoutera les photos en fait après sur notre site et donc dans la vidéo. Il y a ce clavier sensitif qui fait vraiment cheap sur le TO7. C'était vraiment parce qu'ils avaient mis trop de sous dans le stylo électronique ou quoi ? Dans le crayon optique.
Bon, à l'époque, ça coûtait. Bon, ça, c'est un ratage français. Ceci dit, il faut reconnaître une chose, c'est que pour un clavier sensitif, c'est pas le pire. Je veux dire, les Anglais ont fait bien pire. Bon, à beaucoup moins cher.
Le ZX80, il était largement moins cher, quoi.
Mais il valait 10 fois moins cher. Donc, du coup, je pense que ce clavier est nul, mais. Il y aurait pu avoir pire. Et puis pour les écoles avec les petits moutards, eh ben, au moins, ils pouvaient baver dessus tranquillou.
Un coup d'éponge,
c'était propre. Bon, voilà. Mais enfin, c'était pas bien puisque le successeur a eu droit à un clavier gomme médiocre quand même. Donc, il y avait progrès.
Pas trop pourri en comparaison. Après,
ils ont mis des vrais claviers mécaniques pourris. Donc, en fait, bon, voilà.
Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que le clavier mécanique était un kit fourni par un tiers au départ.
Au départ,
c'est
ça, ouais.
Et après, ils l'ont intégré. Donc, comment se mesurait-il face à la concurrence de l'époque, outre le ZX80, il y avait quand même d'autres machines qui étaient un petit peu de ce niveau. Il y avait Commodore avec le VIC 20.
Bon, déjà, il a traîné avant d'arriver sur le marché. Ça, c'est pas une bonne chose dans un milieu où, au bout de 6 mois, les ordinateurs étaient déjà obsolètes. Donc, ça a été difficile de lutter quand justement le Commodore 64 est sorti. Mais il avait des atouts. Le premier, c'est que Thomson avait créé une filiale commerciale destinée à gérer le marketing. Et donc, avait appuyé très très fort et avait un message très simple. C'était de dire, les enfants ont ces superbes ordinateurs à l'école. Si vous leur achetez, vous prolongez l'expérience d'enseignement à la maison. Donc les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le choix entre une machine qui a l'air d'être un jouet, comme un Commodore, ou d'acheter une machine qui a la même à l'école. Et bah, pas d'hésitation.
La gamme a été rafraîchie avec le TO770. C'était quoi la différence?
Bon, disons que le premier, quand il est sorti, il avait très peu de mémoire. C'était impraticable. Il avait 3 kilos pour l'utilisateur, donc on pouvait rien faire. Et le TO770 est sorti, en gros, pour pouvoir utiliser sereinement, je dirais, le nano-réseau, le fameux réseau des écoles.
Donc, en fait, on va expliquer un peu ce que c'est que ce nano-réseau. On avait un PC, un vrai IBM PC, avec des cartes spécifiques. Et donc un petit add-on qu'on mettait sur ces ordinateurs pour les contrôler à distance.
C'est ça. Alors ça, c'est une grande réussite française. Voilà, il faut le dire franchement. C'est l'université de Lille qui a créé ce concept. L'idée est de créer un réseau ultra cheap pour pouvoir relier les machines. Au tout début, qu'est-ce qu'ils faisaient dans les écoles? Ils utilisaient des TO7 comme ça. Et à chaque fois, le maître devait passer sur tous les ordi pour faire un load. Et puis alors attendre. Et puis les momies touchaient. Et flan, ils éjectaient la cassette. Il y avait le basique qui sautait, etc. Donc du coup, ça compliquait beaucoup la tâche. Le nano-réseau, ça permettait instantanément, depuis le serveur, de balancer les programmes pour les junts. Et puis, ils pouvaient faire de l'informatique comme des grands. Donc, révolution.
C'était pas mal du tout. Quelle était la qualité des jeux, en fait? Puisque, donc, ils ont essayé de se reconvertir vers le familial. Est-ce que les jeux étaient plutôt bien? On se mesurait comment par rapport à la
concurrence? Alors, il y a les jeux ludo-éducatifs. Ouais. Qu'il y avait. Alors là, c'est la punition suprême. Et après, à côté de ça, comme l'ordinateur a été diffusé dans les foyers, il y a des jeunes qui ont écrit des applications de très grande qualité. Donc on a des produits quand même, je trouve que pour l'époque, qui étaient très corrects. On ne le dit pas assez. Les Thomson, ils ont beau être médiocres, il y a des gens quand même qui se sont décarcassés pour sortir des choses de qualité.
Dont Daniel Glasman, qui a fait l'un des interpréteurs logo, on en parlera tout à l'heure.
Il y a le logo, ouais. Bon,
alors
ça,
qu'il était encore au lycée, en plus.
Ah ouais, c'est ça. Mais c'était la grande époque de l'amateurisme éclairé.
Si le Père Noël en mettait un sous le sapin, était-il une ordure?
Alors, le Père Noël était une ordure quand les moutards voulaient une console de jeu de type Nintendo et qui recevaient un vidéopack ordinateur de jeu.
Oh,
là, c'était la vraie punition. Mais le Thompson, à mon avis, les jeunes qui ont eu ça, ils étaient contents quand même. Ouais.
Enfin, il y avait des trucs bien sur Vidéopack, mais c'était très cher.
Non,
quoi,
mais c'était pourri, Vidéopack, quand même.
Ouais, enfin, tu
surtout qu'ils l'ont fait durer plus que de raison chez Philips. C'est vers 85, un Vidéopack. Bon, j'en connais dans la salle qui en ont eu et qui se sont quand même amusés, mais...
Ouais,
bon,
non, j'avoue, je reconnais.
T'en as eu un toi aussi ?
Non, pas moi. Donc, le MO5 et le TO7 sont deux gammes, a priori avec des caractéristiques à peu près identiques, et pourtant ils ont fait un format de cassette incompatible. Mais qu'est-ce qui leur a pris ?
Alors, bon, le TO7 était une machine à 7000 francs à l'époque, donc 10 fois trop cher. Et l'idée, quand même, pour équiper les écoles avec du matériel
c'était,
qui était
c'était quoi le SMIC à l'époque ? C'était 2000,
je crois. C'était 2-3000, ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Donc, c'était franchement chéreux, quoi. Et donc, l'idée, c'était de créer une machine à peu près équivalente, beaucoup moins chère. Et donc, à mon avis, les restrictions techniques pour avoir un prix super bas ont conduit au MO5.
Est-ce qu'ils se sont exportés, les ordinateurs Thomson ?
Dans la douleur, ils ont essayé de les vendre en Allemagne d'abord, forcément. Mais bon, les Allemands, ils avaient le Volkscomputer de chez Commodore. Ils ne pouvaient pas lutter. Et puis, ça n'a pas marché. Après, je crois qu'ils ont essayé de vendre du nano-réseau en Russie. Ils ont essayé en Afrique et tout. Mais bon, c'était le flop. La technologie, à partir de 85, elle était trop obsolète, quoi.
Des éditeurs autres que français se sont essayés à cette plateforme où finalement c'est chasse gardée nationale, Cocorico.
Non, c'est bien, c'est français au moins, là on reste...
D'accord. C'est CPU. L'émission Carré Petit Utile et donc nous sommes avec René Speranza, fondateur et président de l'association de rétrocomputing Silicium, pour parler principalement des Thomson. Et là, hop, on va profiter quand même qu'on a des machines spécialement amené par l'équipe. Donc, René, hop.
Oui.
Derrière les Thomson, si je me trompe, quand même, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe à Paris. Il y a, à la base du plan informatique pour tous, on peut parler quand même du Centre mondial informatique de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Ouais. Plus près du micro.
Oui, ouais. JJSS pour les intimes.
D'accord. Et donc, c'était quoi ? C'était une initiative publique, privée ?
Ouais, je crois, ouais. Alors, c'est le genre de personnage, là, les visionnaires en bois là, des années 70-80, là, qui croyaient que... bon, il avait compris que l'informatique était l'avenir de l'homme.
Ouais.
Et alors lui...
le pauvre.
Lui, ce qu'il espérait, c'était que, vers 84, c'était que dans les écoles françaises, tous les mômes utilisent des Macintosh. Parce que bon, il avait testé le Macintosh.
Est en 84 quand même.
En 84, ouais. Ouais. Donc il a vu que c'était quand même un super ordinateur, le Macintosh, à l'époque. Hein, quand on peut pas... Et donc,
là, on parle de bécanes à 27 000 francs quand même.
C'est ça. Et ouais. Donc, pour mettre dans les écoles, ça allait être vachement difficile. Et donc, ouais. Bon, bah, on a mis des MO5 et puis basta, quoi. Donc, finalement, après, ils avaient essayé de faire des accords avec Apple pour en avoir quand même. Mais Apple a dit, bon, bah, moi, pas de problème, je monte l'usine en France plutôt que d'aller en Irlande comme ils ont fait. Et puis je vous mets les ordis. Mais non, nous, on voudrait un partenariat, tout ça. Un Thomson avec un système Apple. Mais non, c'était pas possible. Et en fait, Thomson n'a jamais franchi le pas du 16 bits. Alors après, ils ont rebadgé ou ils ont fait faire par les...
Enfin, si, ils l'ont fait, mais dans le militaire, quoi. C'était pas...
Ouais, non, mais c'est autre chose. C'est complètement autre chose, ouais. Voilà. Au niveau... ils ont fait aussi des TO16 qui étaient des PC...
c'était en 89.
Oui, mais c'est des trucs qui ont été conçus ailleurs. C'est pas eux. En fait, eux, ils ont arrêté. Ils ont fait du 8 bits. Ils ont poussé le plus qu'ils pouvaient avec la gamme TO8, TO9. Même, ils ont essayé de faire un TO9 avec une petite interface façon graphique, fichier, poubelle, machin. Mais c'était pas ça, quoi. C'était pas possible.
Alors, le plan informatique pour tous, quand ces bécanes sont arrivées, en fait, le plan, il était déjà décidé ou non ? C'est-à-dire ces machines sont arrivées sur le marché avant ou après ?
Ouais, avant, oui. Mais bon, celui-là, il est arrivé en 82 ou 83, donc c'était avant. Et je pense qu'ils ont compris que la machine était trop chère. Et donc, en même temps, à peu près, le MO5 est sorti pour pouvoir équiper les écoles. Donc, il y a eu des TO7, peu. Il y a eu des TO7 70 un peu plus, mais ça devait être plus cher, donc les écoles ont levé le pied.
Là,
Il était disponible en masse... tout le monde prenait des MO5 et je crois qu'ils en ont vendu plus de 100 000. Donc ça a marché quand même.
Et sur le plan informatique pour tous, outre Thomson, qui était en lice ?
Bon, il n'y avait que Thomson pour les machines pour les bambins.
J'ai cru comprendre qu'il y avait Excelvision quand même, qu'il y en a eu quelques-uns.
Non,
mais
non,
c'était
non.
Des miettes. Quoi.
C'était des miettes, ça marche. Il n'y a pas d'extension, c'est autre chose en fait. Mmh. Ils en vendaient, mais c'était des machines autonomes, c'était pas relié en réseau. Mmh. Et après, il y avait les serveurs qu'ils avaient eu le bon goût d'appeler tête de pont. Et alors, donc la tête de pont.
Il y a plus affreux que gêne aujourd'hui.
La tête de pont du nano réseau était un PC. Alors, je parle d'une époque où le PC était composé d'IBM et d'incompatibles PC. C'est-à-dire que les machines étaient toutes différentes. Les formats de disquettes, c'était jamais compatible.
Les drivers vidéo.
Ouais, la vidéo, il n'y avait que le mode texte qui était compatible après. Ouais. Donc, c'était assez compliqué. Et puis, sans parler de l'architecture interne qui était assez laborieuse.
Mais c'était bien cher.
Voilà. Donc, au début, Léanor, qui était l'industriel qui avait réalisé le nano-réseau qu'on voit ici, Léanor avait commencé avec un CPM et après ils ont fourni un PC qu'ils avaient eu.
Donc il y avait même des prises électriques.
C'était pour simplifier la tâche. Donc ce n'est pas du CPL.
J'ai découvert donc en préparant cette émission que nos amis du comptoir du Languedoc, qui est un vendeur de pièces détachées électroniques très connu sur Toulouse, avaient conçu un Pico réseau qui était censé être moins cher.
Oui, alors en fait, c'était pourquoi ça ? C'était ce que je te disais au début. Mmh. Les gars, ils n'en pouvaient plus d'aller passer sur tous les postes et l'intérêt, c'était de distribuer. Quoi.
Donc ils avaient initié.
Ils avaient fait un système de distribution du soft sur toutes les machines, mais c'était par le port cassette. Quoi. C'était
pas prise cassette.
C'était hyper rustique, mais c'était pas idiot. Ça, c'est carrément super inventif en fait. Donc en fait, ça, c'est la prise juste pour mettre l'ordinateur dessus. Comme ça, le maître, il peut couper. Quand ça chahute, allez, on coupe. Et, et puis après, bon, histoire de simplifier, il y a l'accès réseau qui était en prise DIN avec un fil. Voilà.
À l'allemande.
Donc c'est de la double paire et ça tourne à 500 kilos pour les experts. Donc c'est
c'était quand même pas mal, quoi.
Ouais,
je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de lecteurs de disquettes à cette époque à cette vitesse.
Même les réseaux, les petits réseaux. Là, le début, c'est la collision comme ça. C'était le Starlan qui est arrivé 5 ans après, quoi.
Ouais. À combien se montait l'équipement pour les écoles entre le PC, le nano réseau, les machines?
Je me rappelle pas des tarifs éducation pour école, mais c'était pas hyper cher. Ils pouvaient s'équiper avec 6 machines, un serveur et puis voilà, une imprimante. Il y avait l'imprimante aussi quand même. Parce qu'en fait, les mômes, ils pouvaient imprimer.
Alors maintenant, c'est bien beau d'avoir de l'équipement, mais comment était préparé le corps enseignant ? Est-ce que vraiment il y a eu une volonté de leur apprendre, d'avoir un retour vis-à-vis justement du public qui s'en servait, ou finalement c'était top to bottom, mais on n'a pas les moyens pour vous expliquer. Alors, lisez le manuel.
Déjà, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce n'était pas la première tentative d'informatisation dans les écoles. Ça a commencé au tout début des années 70. Ils ont lancé une expérience qui s'appelait 58 lycées. Donc là, l'idée, c'était les lycées les plus, on va dire, performants. Donc ce n'était pas dans les zones de Paris qu'on trouvait ces machines. Ils avaient mis, je crois que c'était des Mitra ou des choses comme ça, donc un mini ordinateur avec 3-4 terminaux. Donc un coût exorbitant.
Pour pas grand monde en plus.
Pour pas grand monde.
Le premier élève
classe. C'était la première tentative. Après, ils ont poussé le truc, ils ont fait les 10 000 micros. Donc c'était en 79. Ils se sont dit, on va essayer d'équiper première tentative dans quelques lycées français. Et là, ils ont lancé des appels d'offres pour avoir des machines. Et il y avait notamment la Société Occitane d'électronique qui avait prévu un ordinateur pour diffuser dans les écoles. Ils ont commencé à le diffuser. Et puis, comme les administrations ont toujours une latence pour payer, la boîte a coulé. Hein. On n'est pas en France pour rien.
C'est bête. Les logiciels éducatifs eux-mêmes, est-ce qu'ils étaient bien ? Parce que moi, j'ai souvenir de 2-3. À part le logo, c'était quoi ? C'était des QCM, quoi.
Ça dépend. Il y avait...
Ça n'allait pas au-delà.
Alors là, j'en ai amené un qui est super. Ça s'appelle Jolly Gone et Chêne.
J'adore la pochette. Voilà, elle est très très lean.
C'est une petite cassette.
En design, ouais.
Alors en général, ce qui se passait, soit il y avait cette version cassette directement pour ceux qui n'avaient pas de nano réseau, ou alors il y avait ce type de produit qui fait hyper envie aussi, qui s'appelle Histoire de théâtre.
D'accord.
Qui était donc vendu en disquette pour mettre sur le PC.
Donc tu pouvais pas, si tu avais le MO5, t'amusais direct.
Il fallait le nano réseau. Et après, c'est atroce, quoi. Voilà, on va dire les choses simplement. Mais je pense que les mômes, ils s'en foutaient. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était toucher de l'ordinateur.
J'ai l'impression qu'on a surtout quand même des éditeurs de manuels scolaires qui se sont lancés vraiment dedans.
Non, c'était oui, c'était
à part Lauriciel et compagnie. Et
ouais. Bon là, par exemple, c'est Free Game Blot qui est une boîte qui a été rachetée par Lauriciel après. Et mais sinon, c'était surtout pour la diffusion, quoi. C'est sûr que les éditeurs style Hatier, ils avaient le marché, c'était facile pour être diffusé. Ils avaient le catalogue, ils rajoutaient dedans et allez. Mais je pense que globalement, c'était pourri, l'offre de logiciels et de ludo éducatif. Mais c'est pas grave, c'était quand même une bonne idée. Et je pense que les profs les plus acharnés, parce qu'il fallait quand même, je pense, certes, ils suivaient une formation, mais il fallait être motivé pour aller ensuite déployer tout ça, même si maintenant ça paraît relativement trivial quand on s'y connaît un peu. Quand on sortait de rien et qu'on revenait de la session de gym avec les enfants et qu'il fallait faire du nano-réseau, c'était peut-être pas simple.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Et donc, nous recevons René Speranza, président fondateur de l'association Silicium, pour parler du plan informatique pour tous, DMO5 et DTO7 partout dans toutes les écoles. Ouais, mais bon, combien de temps ont duré ces systèmes avant d'être misés ?
Ben, 89 les derniers. Il devait rester une poignée d'irréductibles gaulois au fin fond de la Creuse. Et voilà quoi. C'est pourquoi c'est resté ? Parce qu'il y avait des maîtres qui pensaient que c'était une bonne chose, qui s'étaient bien investis dedans, qui maîtrisaient, et puis qu'ils avaient pas autre chose, parce qu'évidemment, l'enseignement était passé à autre chose.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'on aurait pu faire quelque chose d'intéressant avec uniquement des Minitel et un PC en guise de serveur ?
Quand même, des Minitel, c'est rustique, hein, donc il n'y avait pas de crayon optique, je pense pas, non.
Et est-ce que vraiment il y a eu des outre Daniel Glasman, il y a eu d'autres personnes qui sont lancées dans l'informatique avec ça, il y a vraiment eu quelque chose qui en est resté côté développeur, côté moyen humain?
C'est difficile à dire, il n'y a pas beaucoup d'expériences à ma connaissance qui se sont révélées après, mais c'est évident que c'est toute une génération qui est passée sur ces machines, et donc cette génération, eh ben, elle a fait de l'informatique dans la foulée, et c'est l'informatique de maintenant. Hein. Donc oui, il y a sûrement eu quelque chose. Mais on est en France, donc tout ça, c'est parti à la poubelle, et ni vu ni connu.
La poubelle de l'histoire ou poubelle tout court ?
Tout court.
D'accord.
Tout court. Même pour trouver de l'info sur Thomson, on a mis beaucoup de temps avant d'avoir des retours. Juste après que ça soit effondré, on va dire, parce que c'était du jour au lendemain qu'ils ont décidé d'arrêter ça. Les gens y avaient trop les boules et ils n'ont pas voulu communiquer là-dessus. Leur témoignage, ils se le gardaient. Et on a eu beaucoup de mal à trouver des gens qui avaient participé à cette expérience à l'époque, chez Thomson.
Ouais. On a dit aussi que d'autres pays se sont lancés dans l'informatique éducative. Ça a plus ou moins bien marché. En Angleterre, il y a une multitude de constructeurs. C'est finalement le BBC Micro qui a été théorisé d'ailleurs par la télé nationale, par la BBC.
Ah oui, les Anglais, c'était mieux.
Donc ça, on en parlera, je pense. Ça vaut vraiment une émission à part, parce que cette machine est devenue mythique, carrément.
Ouais, les Anglais, c'était à l'époque de Madame Thatcher. Là.
En plus. Ouais. Et malgré tout, ils ont sorti une machine et des programmes logiciels et des programmes à la télévision et à la radio.
C'est ça.
Est-ce qu'on a manqué d'investissement, justement, en France, de ce côté-là, d'investissement humain ?
Alors, à mon avis, c'est indéniable. Déjà, au niveau informatique, la volonté était faible. L'accompagnement des entrepreneurs industriels était mauvaise. La preuve, ce que je disais tout à l'heure avec la société Occitane. Alors que les Anglais, eux, c'était quand même aussi le Far West, mais ils avaient quand même beaucoup plus de financement que nous, on n'avait pas. Et l'interaction avec les universités était beaucoup plus forte que chez nous, même si l'université de Lille a bien prévalu à la réalisation du nano-réseau avec Léanor. Mais c'est exceptionnel, à mon sens.
Et en Allemagne ? On a parlé du Commodore Volkscomputer.
Le Volkscomputer, c'était le VIC-20. Mais en Allemagne, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Mais en tout cas, c'est sûr qu'eux, ils n'avaient pas... Je n'ai pas souvenir de machines comme ça.
D'accord. Il y a peut-être d'autres pays dont tu as la mémoire, tu pourrais parler
Non. Il y a l'Allemagne de l'Est avec les fameux Robotron, quand même.
Oui, qu'on a eu l'année dernière.
On en avait parlé, magnifique. Les Robotron, des machines que le peuple ne pouvait pas se payer. Forcément, on était dans un pays communiste, donc le peuple n'avait pas les moyens. Mais par contre, elles étaient quand même à destination de l'enseignement. Alors le problème, c'est qu'il y en avait encore moins qu'en France. C'était encore plus dramatique.
Ouais, ça, je veux bien croire. De nos jours, est-ce que reconstituer, par exemple, pour une raison muséographique, une salle de TP de l'époque avec son nano-réseau, ses MO5 ou TO7, son ordinateur serveur maître et son cœur de réseau lui-même.
Tête de pont.
Quel nom génial. Est-ce que c'était vraiment. Est-ce que c'est encore faisable de nos jours? Est-ce qu'on arrive encore à faire vivre les logiciels de l'époque?
Alors, il y en a qui le font. Nous, on n'a jamais essayé de faire tourner un nano-réseau parce qu'on trouvait ça dérisoire. Mais rien ne dit qu'on ne s'y mettra pas parce qu'on en a récupéré quand même un bon paquet dans les écoles françaises. Donc, on a ça, les gars, la câble, là, si vous voulez, vous venez le chercher. Allez, hop. Donc, on en a. C'est pas très complexe et je pense que c'est faisable. Ouais.
C'est quoi le plus dur, finalement? C'est trouver les télés?
Non, les télés, c'est du Péritel, c'est pas le problème. Non, le plus dur, c'est la tête de pont. Quand ça veut pas, ça veut pas, une tête de pont. Hein.
Donc, il faut faire appel au génie.
Au génie français.
Oui, forcément. Oui, elle était facile. On coupera pas au montage. Au final, le plan informatique pour tous, est-ce que c'était une réussite ou un échec en fonction des métriques? Est-ce que vraiment ça a lancé quelque chose au niveau éducatif? Est-ce que vraiment ça a lancé quelque chose au niveau industriel dans l'industrie logicielle ou dans l'industrie matérielle? Ou est-ce que c'était un complet gâchis financier?
Alors, moi, je dirais pas que c'est un gâchis complet malgré les apparences, parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand je vois les gens qui viennent nous voir dans les salons et choses comme ça, ils sont très contents d'avoir eu cette expérience dans leur jeunesse. Donc, c'est forcément positif. En plus, ça a permis quand même à des créateurs français de se lancer pour arriver à des Michel Ancel et compagnie. Donc je pense pas que ça soit un échec. Par contre, la façon dont ça a été mené, tant au niveau industriel que éducation, c'était lamentable. Donc c'était bien la France.
Merci infiniment, René, d'être venu avec tes comparses de l'association Silicium et en plus d'avoir amené cette fierté nationale.
Oui,
oh oui. Oui. À l'époque, c'était pas fabriqué en Chine.
C'est le Macintosh français là que je vous ai sorti. Hein.
Quand même, quand ça même. Se fait.
Faut le
ça
dire, faut le dire.
En tout cas, mille merci. Outre l'événement Vieux Micro qui est déjà passé, puisque donc c'est fin septembre 2018. Est-ce qu'il y a d'autres événements?
Oui, il y aura dans cette année déjà, on peut annoncer notre participation au salon Scientilivre. Ce sera, je pense, le week-end du 21 et 22 octobre. Nous tenons stand, l'entrée est gratuite, faut pas se priver, c'est à la Bège.
Ouais. Et d'une manière régulière, plus différents salons, que ce soit donc celui des Fab Labs.
J'ai pas les dates en tête, mais en général, si les gens vont regarder sur le site web, il y a toutes les dates à venir et il y a toujours moyen de venir nous rencontrer.
Sur silicium.org.
Tout à fait.
Mille merci.
Merci.
Peut-être que tu reviendras, je sais pas, propose des bécanes. S'il y a des bécanes, tu as envie de parler. Et allons-y, roulons jeunesse. Et puis voilà.
Ma poule.
Ok, merci.